VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Le procès pour crime contre l'humanité de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, s'ouvre aujourd'hui à Abidjan en l'absence des organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent leur marginalisation dans la procédure. Ce nouveau procès devrait durer un mois et verra la participation de 25 témoins de l'accusation. L'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo est actuellement incarcérée à Abidjan, où elle purge une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Madame Gbagbo, âgée de 66 ans, comparaît pour crime contre l'humanité, crime contre les prisonniers de guerre et crime contre les populations civiles commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Au Burkina Faso, Eddy Constance Kamboigo, chef de parti du parti de l'ex-président de Blaise Compaoré, a bénéficié hier d'une mise en liberté provisoire, selon l'AFP. Fin janvier, il avait été inculpé et mis sous mandat de dépôt, notamment pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat lors du putsch manqué de l'ex-régiment de sécurité présidentielle ERSP, l'ancienne garde prétorienne de M. Compaoré, le 17 septembre contre la transition. La coordination des mouvements de l'Azawad et la coalition des groupes armés pro-gouvernementaux maliens, dites de la plateforme, ont appelé hier à Alger à accélérer la mise en place d'une autorité de transition dans le nord du Mali. Les précisions, Timothée de Nangmaï.
L'objectif de la rencontre d'Alger, à laquelle a assisté le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, était de débattre des principales causes entravant l'application des points essentiels de l'accord de paix et de réconciliation de 2015, a indiqué le représentant de la CMA, Mohamed Maouloud Ould Ramadan, que cite l'agence officielle algérienne APS. Déplorant le fait qu'aucun point de l'accord n'a été appliqué jusqu'ici, le représentant de la CMA a appelé la communauté internationale et la médiation internationale conduite par l'Algérie à consentir davantage d'efforts pour sauver l'accord. L'Algérie dirige le comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation qui avait été mis en place en juin 2015 afin de superviser la mise en application de l'accord de paix. En mars, la 7e session de ce comité à Bamako avait fait état d'avancées significatives concernant la mise en place d'administrations transitoires dans le nord du Mali.
Les défis de la sécurité, de gouvernance et de développement qui se posent aux pays de la région du Sahel sont en particulier liés au changement climatique. C'est l'affirmation de l'Union africaine. Pour comprendre ce phénomène, Eric Mandrakiza a joint à New York le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, l'ancien président du Burundi, le major Pierre Bouyoya, qui l'a exposé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Pour moi, c'est une évidence, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. J'ai pu, par exemple, indiquer comment, dans le conflit malien, il y a la part de la grande sécheresse de 1973 qui a fait que les populations du Nord ont émigré massivement en Libye. Et quand ils sont revenus en 2012, ils sont revenus en armes. Et c'est ça qui a déclenché toute la crise. Parce que cette région, c'est une région extrêmement vulnérable sur le plan du climat, de l'écosystème, ce qui a un impact direct sur la vie des populations. C'est une région qui connaît un déficit important sur le plan alimentaire, qui connaît des catastrophes naturelles régulièrement, la sécheresse, l'inondation. Et tout cela a comme conséquence de fragiliser les populations. Elles sont à la merci de tous les aventuriers qui viennent là-bas, des terroristes, des trafiquants de drogue.
Et à vous donner l'exemple du Mali, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont très affectés par ce phénomène?
Autour du lac Tchad. Comment la détérioration de l'environnement autour du lac Tchad a fragilisé les populations là-bas, ce qui fait que cette région est devenue un terreau de recrutement pour Boko Haram.
Vous avez sans doute proposé des recommandations ou des voies de solution.
Comment lutter contre la désertification, comment faire la restauration des terres pour fixer les populations sur leurs terres, comment améliorer la subsistance de ces populations? La réponse est qu'il faut aller la rechercher dans la problématique du développement d'une façon globale. Par exemple, on a parlé d'appuyer fortement ce qui est en train d'être fait dans le cadre de la Mirail verte, comment qu'il faudrait réhabiliter le lac Tchad, qui est un lac qui est en voie de disparition.
Y a-t-il une responsabilité quelconque des États dans ce qui s'est passé?
Il y a une responsabilité des États dans le sens de dire que les États ont la première responsabilité de lutter contre le changement climatique, notamment en s'appuyant sur le fameux accord de Paris.
Pierre Bouyouya, joint à New York. Au Tchad, si des candidats malheureux à l'élection présidentielle du 10 avril étaient convoqués ce matin à la police judiciaire de N'Djamena, en l'absence de deux d'entre eux, le chef de file de l'opposition, Sadek Ebzabo, et Laouken Kourayo, qui sont absents, quatre des candidats se disaient prêts à répondre à la convocation. Chérubin Dorsil a recueilli la réaction de l'opposant Gali Gata Ngoté.
Rien n'a été mis dans la convocation, donc on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Mais quelques indiscrétions nous ont fait savoir qu'il s'agit en fait d'une conférence de presse que nous aurions faite sur la disparition des militaires et qu'on voudrait nous écouter en tant que témoins. Je réagis en disant que nous ne sommes pas témoins de tels événements dans la mesure où nous n'avons pas assisté directement aux arrestations, aux déportations, aux disparitions des gens. S'il y a des témoins à chercher, c'est dans les camps militaires, dans les postes où les militaires ont voté. Nous ne sommes pas témoins. Ensuite, nous ne sommes pas plaignants parce que nous ne sommes pas les parents de ces militaires. Indirectement, nous nous sentons concernés dans la mesure où ce sont des gens qui ont voté pour l'opposition et c'est le prétexte que le gouvernement a trouvé pour pouvoir les arrêter. Mais dans tous les cas, c'est l'expression de leurs droits constitutionnels et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait les arrêter sur ce chapitre-là.
Vous allez répondre à cette convocation?
Oui, nous y allons. Nous ne voulons pas leur laisser cette possibilité de nous reprocher quoi que ce soit. Nous irons, mais je ne crois pas que nous allons répondre à ce qu'ils attendent de nous.
Gali Ngata Ngoté, opposant tchadien. Au Congo-Brazzaville, la justice a décidé hier de déférer l'opposant Paulin Makaya, détenu sans procès depuis 6 mois devant un tribunal correctionnel pour incitation au trouble à l'ordre public. C'est ce qu'a annoncé son avocat, maître Eric Yvonne Mbuanga. Les autorités ont reproché au leader de la petite formation unie pour le Congo, UPC, d'avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée le 20 octobre contre le référendum autorisant le président Denis Sassou Nguesso à briguer un troisième mandat.
VOA Afrique en direct de Washington.
Hors du continent, les forces irakiennes faisaient face ce mardi à une forte résistance du groupe djihadiste État islamique dans leur avancée vers le centre de la ville de Fallujah, où le sort de dizaines de milliers de civils bloqués suscite de vives inquiétudes. Soutenue par l'aviation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis et conduite par l'unité d'élite irakienne de contre-terrorisme, les forces gouvernementales sont entrées lundi dans Fallujah au 8e jour de leur offensive pour chasser l'État islamique de cette ville située à 50 km à l'ouest de Bagdad. Les talibans ont eux pris en otage aujourd'hui des dizaines de passagers d'autocars et en ont exécuté au moins 16 soupçonnés de travailler pour le gouvernement afghan, montrant qu'ils comptent poursuivre le combat une semaine après la désignation de leur nouveau chef. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis la nomination la semaine dernière du Mollah Aïbatullah Akhundzada, un érudit religieux peu versé dans la stratégie militaire qui a succédé au Mollah Mansour tué par un drone américain au Pakistan. La Corée du Nord a apparemment échoué dans une nouvelle tentative de tirer un missile balistique en violation des résolutions de l'ONU, a annoncé aujourd'hui le ministère sud-coréen de la Défense. Le ministère s'est refusé à se prononcer sur le type de missile dont il s'agissait, mais les médias sud-coréens rapportent en citant des sources militaires qu'il s'agissait d'un missile de moyenne portée de type Musudan. En avril, Pyongyang a déjà fait 3 tentatives de lancement de missiles Musudan qui ont tous échoué. Et puis en Haïti, la commission indépendante de vérification et d'évaluation électorale recommande dans son rapport remis lundi aux autorités l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle tenue le 25 octobre dernier en raison de fraude. Après le travail donc de la commission d'évaluation, seul le conseil électoral provisoire, CEP, peut décider de la reprise totale de l'organisation du premier tour du scrutin présidentiel pour lequel 54 candidats étaient en lice. Jean-Roger Billon, vous retrouverez dans 50 minutes Henri Francis pour un nouveau journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.